Moi, ben, ce qui serait encore plus fun, c'est qu'on pourrait dépolluer.
Oui, puis, tu sais, mais moi, je dis toujours qu'on est à 75% arrivé. Fait que là, il reste le dernier 25%. Puis, on n'a pas besoin. Une rivière, là, c'est vivant, ça bouge. Puis, on n'a pas besoin de s'attendre à ce qu'il y ait zéro pollution. Ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que les usages ne sont pas modifiés. Si on se donnait, mettons, on se donne le défi, 100% de l'été baignable. Mmh. Juste ça. Et on se disait, c'est ça qu'on va faire. Comment on ferait? Comment on procéderait? Quelle stratégie on prendrait? Je suis sûr qu'on serait très créatif et on serait capable de trouver des solutions.
Comme?
Ben, comme régler les raccordements croisés okay. en amont.
Mais t'sais, ça, attends, mais excuse-moi, moi j'ai vu ça comme gros, les raccordements croisés. Là, ben, comme détecter qui, quelle maison a un raccordement croisé.
C'est facile. Ah, on oui? envoie, c'est des tests de boucan. On envoie ça dans le tuyau. On le voit sortir. Ouais. On envoie un test de boucan, puis on remonte dans quelle
pourtant,
maison.
Pourtant, Meadowbrook, là, ils se sont plaints, les gens, pendant des années, il a fallu que les riverains se plaignent de la qualité ouais. de l'eau du ruisseau pour que la ville engage les travaux parce qu'ils voulaient pas le faire.
Ben, à Meadowbrook, ce qui s'est passé, c'est que c'est la ville de Montréal-Ouest qui voulait pas faire les travaux. Parce que les problèmes venaient de là. Et c'est Montréal qui vivait avec les conséquences.
Ouais.
Et dans ce cas-là, le ministère, auparavant, finançait les réfections d'égouts et tout ça, à condition de régler les raccordements croisés. On en faisait une condition.
Alors, c'est Montréal qui est obligé de payer pour...
Montréal ne peut pas le faire sur le territoire de Montréal-Ouest.
Mais non, c'est ça.
Fait qu'ici, c'est tout, nous, on avait écrit au ministère pour leur dire, écoutez, au Conseil du Trésor, faites-en une condition. Si vous financez la réfection, ben dites parfait, mais ben rajoutez un petit 200 000 ici, puis faites les corrections de raccordement croisé, okay. et vous allez avoir réglé le problème. Là.
Si c'est assez simple, si on a fait 75% du chemin, pourquoi on a des rivières encore aussi polluées? Parce qu'il y en a quelques-unes.
Il y en a quelques-unes, mais moi, je préfère regarder le verre plein.
OK.
Parce qu'on a fait, nous, des tests à la rivière du Nord, la rivière Châteauguay, la rivière L'Assomption, le Richelieu, le Saint-Laurent, à la hauteur de Sorel, et l'eau est jeune, relativement, généralement baignable.
Donc, il y a tu vas avoir beaucoup d'algues sur le bord de l'eau, mais...
Ouais, mais ça ne te rendra pas malade. Ça ne vous rendra pas malade, ça.
OK.
Fait que, tu sais, la question, c'est qu'il faut arrêter de penser que l'eau doit être tout le temps propre.
C'est pas une piscine.
Tout le temps parfaite. C'est pas une piscine. Puis ensuite, j'aimerais ça qu'on compare ça avec ce qui se passe dans les lacs quand on se pose pas trop de questions, là, où on fait pas de tests. Mais ici, c'est vivant, ça bouge. Et on a une perception aussi que l'eau brune, c'est pas de bonne qualité. Mais une eau
c'est
brune.
C'est juste une eau trouble.
C'est de l'eau trouble, c'est ça. Fait que ça, c'est un mythe aussi. Fait que il y a beaucoup ces mythes à déconstruire. Donc, oui, des rivières comme Yamaska, qui sont vraiment des déchets à ciel ouvert.
Mais ça, c'est des rivières agricoles, genre.
Exact.
Ouais.
Exact. Mais dans qu'on est les rivières urbaines, on est tout près d'être capable de reprofiter de ces milieux-là
ouais.
et de les rendre à leur état naturel.
Québec, vont-tu pouvoir se baigner sur le bord de la nouvelle promenade, là?
Ben, Québec, ils ont tenté de le faire. De ce que j'ai compris, ils avaient découvert qu'il y avait encore des problèmes de pollution puis de déversement d'eau usée. Mais encore une fois, si Québec décidait de le faire, ils réussiraient à le faire, là.
Sauf qu'ils ont choisi une piscine, eux autres.
Ils ont choisi une piscine, c'était plus...
Ils se sont mis une piscine sur le bord de l'eau.
Ouais,
c'est un peu défaitiste.
Oui, exact.
Bon. Alors, les rivières, là, je reprends parce que je t'écoute un petit peu là.
Oui.
T'as dit L'Assomption, Rivière du Nord.
Châteauguay.
Richelieu. Même Richelieu.
La rivière Richelieu, oui. On a fait des tests à Chambly. L'eau est d'excellente qualité. Ça fait deux étés qu'on a fait des tests. C'est super bon.
Oui. Quand même, OK.
Puis, il y a Belleuil qui vont ouvrir une zone de baignade parce qu'ils sont convaincus qu'elle est propre. Donc,
et le fleuve.
Et le fleuve, évidemment.
Toi, tu plonges
en amont de Montréal.
En amont, oui. Toi, tu peux plonger dans le plat. Est-ce que tu y vas à la grande baignade?
Oui, bien sûr, le grand splash, là. Ouais.
Hein, les gens plongent carrément.
Ouais,
ils tombent pas malades?
Personne n'est jamais tombé malade, là. On la boit. Puis moi, je prends une tasse à chaque fois.
Oui, mais c'est ceux qui prennent une bière après qui tombent malades. Merci beaucoup, André.
Merci.
Alors, oui, c'est encourageant, hein? Entendre André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivière. On s'en va à la pause. Au retour, on parlera du surtourisme en Espagne. 85 millions de touristes convergent vers l'Espagne à chaque année. Et il y a des régions comme les îles Canaries qui n'en peuvent plus.
La chronique maritime avec Michel Turcotte est une présentation de TMS Solutions.
Sarema, qui est utilisé encore cette année, donc entre Wood Island, à l'île du Prince-Édouard, et Caribou, en Nouvelle-Écosse. Plus bas, là, il y a un système de traversier avec deux navires. Et là, ben, il y en a un qui est passé au feu, là, il y a deux ans, le Holiday Island. Donc, on a envoyé le Sarema, là, l'an passé. Ben, il va y retourner cette année. Donc, la Société des traversiers qui va le louer, encore une fois, à Northumberland Ferries, donc, qui opère faire le service de traversier là-bas. C'est une entente de 3 mois et la fin, donc, de cette entente-là est prévue le 19 octobre. D'ici là, ben, il va prendre la relève du F.A. Gautier à Matane. Au grand déplaisir de certains qui trouvent là, que c'est un navire inconfortable, je serais très heureux de l'avoir, notre Rimouski-Forestville. Je peux vous en passer un papier. Ce serait le genre de navire idéal là, qu'on pourrait installer
la
ici.
La chronique maritime avec Michel Turcotte, tous les vendredis 7h30 à CFX 93.
Notre résidence n'est pas seulement un endroit où vivre. C'est une véritable résidence de cœur. Profitez de notre grande salle de séjour pour lire un livre ou discuter entre amis avec une vue imprenable sur le fleuve. Tous nos services sont inclus dans un seul prix compétitif. Plus besoin de vous soucier des frais supplémentaires. Avec une réputation alimentaire impeccable et un personnel qualifié et humain, nous mettons tout en œuvre pour que vous vous sentiez chez vous. Prévoyez une visite maintenant. Les résidences de l'Immaculée de Rimouski, au cœur du centre-ville, 581-246-3515.
Son Expus Rimouski, votre marchand local en électronique et informatique, vous offre des téléviseurs Samsung et Sony en inventaire au meilleur prix du marché. Service d'installation à domicile disponible. Nous avons également des récepteurs Yamaha, Denon, Marantz et Sony disponibles avec les excellents haut-parleurs Paradigm en démonstration. Vente et réparation d'ordinateurs portables et de bureaux. Également, une section pour les gamers. Passez-nous voir au 150 Avenue Belle-Île ou au www.sonexplusrimouski.com.
Ici Louis-Vincent Lebel. La référence pour votre toiture en bardeaux et vos rénovations, c'est LVL Construction. Nous sommes les seuls à avoir la plus haute certification du fournisseur GAF. Un bardeau garanti 50 ans, une installation garantie jusqu'à 25 ans. Une protection contre les vents de façon illimitée. Offrez-vous la tranquillité d'esprit. Projet de toiture, de rénovation, nous pouvons vous accompagner. Contactez-nous pour une estimation rapide et gratuite au 750-7124 ou visitez le lvlconstruction.ca.
CFX 93.3 diffuse également à Rivière-du-Loup à la fréquence 103,1.
Mais il y a des événements à travers la planète qui se produisent, qui nous poussent à en parler à nouveau de façon régulière. Vous savez, le surtourisme, c'est cette dénonciation par les populations locales d'une pression par les touristes qui devient invivable. Et là, c'est l'Agence française de nouvelles, qui AFP, qui sort une histoire sur les îles Canaries, les îles Baléares, qui ont reçu 16 millions de visiteurs l'an passé. C'est 7 fois plus que ces 2,2 millions d'habitants. Et là, ils n'en peuvent plus. Et ils ont commencé à demander l'arrêt de la construction d'hôtels, en particulier deux grands hôtels qui devaient être construits. Pour en parler, Nico Salvado est fondateur d'Equinox, le média français de Barcelone. Bonjour, Monsieur Salvado.
Bonjour.
Monsieur Salvado, est-ce que vous sentez cette pression des populations locales en Europe et en particulier en Espagne?
Oui, et en particulier à Barcelone, puisque chaque année, la pression touristique monte de plus en plus. Donc, l'exaspération des riverains, des voisins se fait sentir. On peut dire qu'il y a eu un tournant depuis le Covid, parce que comme on le sait, la ville était tranquille. Les habitants avaient l'impression d'être dans un village, de récupérer leur ville. Et depuis le retour à la normale après la pandémie, les touristes viennent. Ils viennent de plus en plus nombreux, de plus en plus décomplexés. Et forcément, ça crée des tensions un petit avec tout le monde.
Qu'est-ce que vous appelez décomplexé?
Ils viennent en groupe, avec un esprit festif. Il y a beaucoup d'enterrements de vie de jeunes filles, de vie de jeunes garçons, par exemple. Et c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a un envahissement de l'espace public. Certains guides touristiques, également, n'hésitent pas à faire des groupes avec des dizaines de personnes. Ça veut dire qu'ils prennent toute la place sur le trottoir. Mmh. Ça veut dire décomplexé dans le sens où, voilà, il y a vraiment un envahissement de la ville.
Et c'est pas rien. L'Espagne, c'est une destination chouchou du monde entier. 85 millions de visiteurs l'an passé. Il y a les îles Canaries, il y a Barcelone, il y a Malaga, il y a la côte. On dirait que le pays est sculpté pour le tourisme. D'ailleurs, ils en tirent des bénéfices importants. Comment ils vont faire pour faire la part des choses entre les bénéfices qu'ils obtiennent, donc nombre, les emplois, les investissements dans les grands hôtels, etc., d'une part, et la frustration des populations locales?
Il y a un vrai clivage qui s'opère, comme vous l'avez dit. D'un côté, il y a la restauration, il y a l'hôtellerie, il y a les commerces qui, pour certains, ne vivent que des touristes, des voisins, les riverains s'en fichent un petit peu de tout ça. Ce qu'on veut, c'est une vie de quartier, c'est avoir notre ville pour nous. Il faut savoir aussi, ce phénomène des touristes a tendance à faire monter les prix des commerces, les prix des logements, parce qu'il y a beaucoup d'appartements qui ont été convertis en appartements touristiques, ce qui réduit l'offre locative à Barcelone et qui fait aussi monter les prix des loyers. Donc on voit bien le clivage qu'il y a entre les deux populations.
Est-ce que le passage de la précédente mairesse là, qui avait décidé de faire des Airbnb une cible et d'arrêter le phénomène à Barcelone notamment, est-ce que ça a fonctionné?
Ça a fonctionné, oui, au niveau des appartements touristiques, parce que comme vous l'avez dit, la mairie ne distribue plus de licences, donc il était plus possible d'ouvrir des appartements touristiques pour les personnes qui les louaient de manière un petit peu pirate. Il y avait carrément un site web qui a été mis en place pour que les voisins puissent dénoncer la présence d'un appartement touristique illégal. Mais la mairie a changé depuis le mois de mai dernier. C'est Jean-Marc Bonny, qui est socialiste aujourd'hui, qui est au pouvoir et qui a tendance à défaire un petit peu les choses, d'assouplir la norme.
Ouais, c'est ça, il y a une pression là, pour le développement économique. Vous habitez à Barcelone. Est-ce que vous considérez que la ville reste encore un lieu de vie pour les gens qui y habitent, ou alors, et dans tous les quartiers, ou alors ça s'est vraiment développé en sorte que vous ne la reconnaissez plus, cette ville?
On connaît de moins en moins, et effectivement, il y a entre guillemets des points noirs, parce que justement, le but de la précédente mairie, d'Ada Colau, dont vous avez fait mention tout à l'heure, c'était d'éparpiller un petit peu le tourisme dans tous les quartiers de la ville, et c'est pas du tout ce qui se passe, en fait. Les touristes vont se masser sur les Ramblas, au centre-ville, sur la Sagrada Familia, qui est la cathédrale. C'est devenu un petit peu un parc d'attractions.
Oui, il y avait des quartiers uniques, mais qui respiraient vraiment, qui vivaient à l'heure de la quotidienneté de Barcelone et de la vie de quartier barcelonaise. Je pense à Gracia, par exemple. Est-ce que Gracia aussi, c'est un quartier qui a été occupé par les touristes?
C'est pas celui qui est le plus occupé, parce que ce que recherchent les touristes, c'est les choses symboliques comme la Sagrada Familia, le parc Güell de Gaudí ou les vieilles ruelles. Donc Gracia, il n'y a pas non plus grand chose à voir pour les touristes, donc c'est un quartier qui pourrait être épargné.
D'accord, je vous en parlais parce que ça correspond un peu à notre plateau Mont-Royal ici. Mais Monsieur Salvado, merci beaucoup, merci pour vos commentaires. Puis
merci à vous.
Merci. On se recontacte pour avoir des développements après l'été, parce que c'est là qu'on va savoir si les efforts pour limiter le nombre de touristes ont porté fruit ou pas.
Parfait, merci beaucoup.
Maintenant, on parle à Paul Arsenault, il est expert en tourisme, professeur au département de marketing à l'UQAM. Bonjour, M. Arsenault.
Bonjour, M. Ferrandez.
Vous avez entendu peut-être mon entrevue avec M. Salvado, où on voit une opposition entre des pouvoirs économiques qui tirent profit de la construction d'hôtels, de l'arrivée de vies étrangères, des dépenses dans la restauration, etc., etc., dans le transport, et d'autre part, des populations qui sont excédées. Et j'ai l'impression qu'on entend souvent parler des populations excédées, mais que ça ira nulle part. Il n'y aura pas vraiment de mouvements organisés, concertés, qui vont finir par faire flancher l'État, puis qui vont dire « OK, on en prend moins ». De touristes.
Ben, je suis à peu près d'accord avec vous. Et ce qui est important de dire, peut-être contrairement à ce que disait l'invité précédent, c'est pas une rencontre avec le touriste. Le touriste, il est là parce qu'on lui a donné les moyens d'être là. Parce qu'il y a des ententes avec l'aéroport de Barcelone ou aux îles Baléares, parce qu'il y a de la chambre d'hôtel qui est disponible. Donc, le touriste, il vient parce qu'il a été, d'une certaine manière, invité. On a aussi dit de Barcelone un certain nombre de choses, mais il faut se rappeler que ça fait trois générations que, de façon extrêmement intense, on développe le tourisme avec la venue des Jeux olympiques en 92, terminal de croisière, agrandissement du terminal de croisière, construction de chambres d'hôtel de façon assidue, ce qui fait que le touriste, le visiteur, lui, il est accueilli. Également, la ville a travaillé, les autorités aéroportuaires ont travaillé beaucoup avec ce qu'on appelle les low cost, les avions qui coûtent pas cher. On pense à EasyJet, Vueling, Ryanair, qui amène, malheureusement, avec les coûts à 69 euros entre Berlin et
Barcelone.
Les gens qui vont là pour faire la fête, et ça a été longtemps présenté comme ça. Ce qui fait que je pense que les Barcelonais, par exemple, sont un peu les artisans de leur propre perte à cet égard-là.
Oui, mais ceci étant dit, spontanément, il y a des mouvements de la population qui dit, bon, écoute, on a beau avoir fait ces gestes-là dans le passé, nous, on est tannés. On l'a vu à Venise. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça?
Ben, écoutez, c'est intéressant parce qu'on donne toujours Dubrovnik, Venise, Barcelone, comme exemple, ou Amsterdam, dans lesquels le développement touristique se continue de